Et bienvenue à l'avantage numérique, déjà le sixième émission qu'on va faire avec Olivier. Salut Olivier.
Yes sir Pat, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, j'aurais aimé parler des équipes repêchées. On sait que le trade deadline s'en vient dans deux semaines. Fait qu'on voulait voir les équipes que selon nous ont des chances de participer aux séries, de perdre leur spot ou de tout simplement aller dans les équipes repêchées, même s'ils ne sont pas classés pour le moment, et ainsi savoir les équipes qui sont intéressées ou non à être vendeurs ou acheteurs.
Bien, par là que tu en parles, c'est tout chaud, le téléphone est encore bouillant. Une transaction vient d'être complétée, justement. Jason Zucker du Wild du Minnesota est rendu avec les Penguins de Pittsburgh en retour de Alex Galchenyuk, Callan Addison et d'un first pick. C'est quoi tes impressions à chaud?
Ben, c'est sûr que pour les Penguins de Pittsburgh, Zucker, ça va être une excellente acquisition. Est-ce que ça vaut un first pick? À mon avis, non. Mais je pense que les Penguins de Pittsburgh sont vraiment dans le all-in, Lar, Crosby, Malkin. Et après ça, on verra pour la suite les remplaçants. Mais non, écoute, à court terme, c'est bon pour les Penguins. À long terme, c'est bon pour le Wild. C'est qu'est-ce qu'on a, on peut dire, un échange qui est 50-50.
Ben oui. Ouais, je suis quand même sensiblement d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup de rumeurs avec Zucker dans les dernières semaines. Puis à chaque fois, c'était vraiment des transactions, un first pick avec des bons prospects. Puis je trouvais que le prix était vraiment, vraiment très, très haut. Puis finalement, Bill Guérin a tiré à plug cette transaction-là qui, je pense, je suis vraiment d'accord, fair pour les deux clubs. Puis la seule chose, c'est peut-être la carte cachée qui est plus ou moins cachée, mais si le Wild réussit à relancer la carrière de Galchenyuk, c'est un gars qui a un beau potentiel, il a ses problèmes, il a plus de confiance, mais on ne sait jamais, un coach qui il se met à y refaire confiance puis qui est capable de le relancer, je pense qu'il pourrait devenir l'élément qui pourrait peut-être donner l'avantage au Wild dans cette transaction-là.
Oui, mais d'un autre côté, Zucker, c'est pas un mauvais candidat non plus offensivement. Là. C'est quand même un gars qui a fait des saisons de 64 points, des alentours de 50 points assez répétitifs avec le Wild du Minnesota, qu'on sait qu'un alignement assez ordinaire. Maintenant, tu le mets sûrement jumelé avec un Malkin, avec un Crosby. Ça pourrait vraiment être intéressant pour Zucker, pour son potentiel offensif. Puis moi, je m'attendrais qu'il pourrait peut-être même finir avec un point par match avec les Penguins de Pittsburgh.
Ben, on ne sait jamais. Regarde. Moi, je pense pas que Jake Gunzel, c'est un joueur de hockey, c'est un joueur très, très dominant, mais à jouer avec ces gars-là, quand il joue avec Crosby, il remplit le net, ça n'a aucun bon sens. C'est sûr que si Zucker s'en va là pour jouer dans la même chaise, il peut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de succès. Mais on le sait, tu sais, dans les dernières années, le nombre de joueurs que Crosby a donné soit une carrière ou un second souffle ou il les a poussés vers le top. On peut penser à un gars comme Pascal Dupuis, tu sais, un gars qui a une éthique de travail incroyable, bon défensivement, mais qui n'avait jamais, jamais produit. Puis soudainement, il joue avec Crosby, puis les deux, ils se complètent à merveille. Donc, ça a le même potentiel avec Zucker, il n'y a aucun doute.
Puis si on y va peut-être plus actuellement, là, on choisit de regarder Brian Ross, une saison là, de 45 points, 40 matchs. On s'entend que mêlé avec les Canadiens de Montréal ou le Wild du Minnesota, ça ne sera pas le même nombre de points produits. Là.
Ben non, absolument pas. Les Pingouins, ils ont ce talent-là. C'est d'être capable de mettre des gars dans certaines chaises puis qu'ils répondent, c'est vraiment impressionnant. Là.
Sinon, en revenant aux équipes repêchées, en étant dans la discussion des Penguins de Pittsburgh, est-ce que tu penses que les Penguins seront en mesure de garder leur place en série éliminatoire qui sont actuellement présents?
Ben oui, absolument. Tristan Jarry, il goal super bien actuellement, il joue super du bon hockey. Si les Penguins peuvent rester un petit peu en santé, c'est l'équipe qui a manqué le plus de matchs par les blessures cette saison. Donc, si la santé peut revenir un petit peu, quand on regarde derrière eux, les Blue Jackets, excellent club de hockey, bien rodé. Mais là, on vient d'apprendre aujourd'hui que Seth Jones va être blessé pour quelques semaines. Et Elvis Merzlikis. Merzlikis,
Ouais,
à
on
peu
va y aller
près.
comme ça,
On
ouais.
va y aller de même. On s'entend, il joue du gros hockey. 5 blanchages à ses 8 premières games, ça n'a aucun sens. Mais je pense pas qu'il va être capable de garder la cadence à ce rythme-là toute la saison. Donc, pour moi, puis si on peut regarder, je vois pas. Il y a peut-être les Hurricanes qui pourraient rattraper les Pingouins.
Toi, tu vois pas les Islanders ou les Flyers les rattraper?
Plus ou moins, les Islanders, c'est une belle équipe bien structurée. Barry Trotz, c'est selon moi un entraîneur. T'sais, il y a beaucoup de respect pour Barry Trotz au travers de la Ligue nationale, mais je crois que même après ça, il est quand même sous-estimé. C'est vraiment, je le considère vraiment dans les peut-être les deux meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale, peut-être trois. C'est une équipe bien structurée, sauf que j'ai de la misère encore à faire confiance à Thomas Grice puis Varlamov. Là-dedans, j'ai un petit peu de misère. Je crois pas qu'ils vont être capables d'être bons pour les 25 matchs qui restent, là.
Fait que toi, à ton avis, ils vont manquer les séries?
Je crois pas ils vont pas manquer les séries, mais ils vont être dans les wildcards. T'sais, ils n'auront pas assez pour rattraper, par exemple, les Penguins de Pittsburgh. Je vois, par exemple, les Hurricanes rentrer troisième là, dans la métropolitaine, cependant. Je pense que les Hurricanes ont eu un creux de vague il y a quelques semaines, mais c'est un maudit beau club de hockey, une belle défensive, une belle offensive. Il reste juste à Mrazek ou à Raymer de faire les saves, puis ce club-là, je pense, ça bataillerait quasiment avec Washington, là, pour la tête. Toi, c'est quoi un petit peu le portrait, là?
Ben moi, si on y va un peu dans la métropolitaine, qu'est-ce que tu as fait le tour un peu? Washington, Pittsburgh, surtout Pittsburgh avec l'acquisition qu'ils vont faire, je pense que ces deux équipes-là vont rester les deux premières dans leur division. Moi, je pense que Columbus, justement, avec la blessure de Seth Jones, je pense que ça va pas les aider. En même temps, il y a des bonnes équipes là, qui les suivent en arrière de eux. Fait que d'après moi, ils vont perdre leur spot de troisième position. Peut-être même pour les Wildcards, ça va être difficile à ce moment-là. Les Islanders devraient les surpasser. Moi, je pense que j'ai plus peur aux Flyers de Philadelphie que les Hurricanes. Les Hurricanes, c'est une jeune équipe. Sont vraiment talentueux. Par exemple, ils sont peut-être pas prêts nécessairement là, à faire les séries. Je sais que l'an passé, ils les ont fait. Mais justement, l'équipe jeune, c'est plus difficile de maintenir les résultats. Et les Flyers de Philadelphie, c'est une équipe qui sont quand même plus expérimentés. On sait qu'ils ont manqué les séries quelques fois dans les dernières années, mais ils ont quand même de bons joueurs. Quand on regarde Claude Giroux, Sean Couturier, Jacob Voracek, un gardien de but aussi qui commence à faire le travail aussi. C'est une équipe qui est bien nantie. À mon avis, ces équipes-là vont le faire. Les Panthers de la Floride sont vraiment en train de l'échapper présentement. Écoute, je pense que c'est au niveau de la culture, là. Même Joel Quenneville n'est pas capable de les rendre sur le chemin de la victoire. C'est une équipe qui ont des joueurs incroyables, là. Juste Jonathan Huberdeau, Alexander Barkov, sont très bien équipés. Même dans les buts, Sergei Bobrovsky, c'est un bon gardien de but. Si je ne me trompe pas, il a gagné même deux fois le trophée Vézina, là, une ou deux fois. Là.
Oui,
C'est vraiment au niveau de la culture de l'équipe, je pense qu'il y a vraiment un problème. On sait que ça fait plusieurs années qui ont des résultats un peu négatifs, là, qui ont vraiment de la difficulté à gagner. Je pense qu'il va falloir qu'ils font des échanges à ce moment-là, chercher des joueurs qui sont capables de gagner, qui savent comment gagner, parce que c'est vraiment problématique pour le moment. Fait que, à mon avis, pour en résumer, là, dans la division métropolitaine, je vois Washington, Pittsburgh, je mettrais les Flyers de Philadelphie comme troisième, et dans les équipes repêchées, là, je pense que ça va être les deux équipes où vous devrez être dans la division métropolitaine, là, entre les Islanders et les Hurricanes. Les Hurricanes vont peut-être le faire, mais vraiment sur la pointe des pas sur la pointe des pieds, là, mais vraiment à la limite.
Ouais. Mais moi, qu'est-ce qui peut aussi pousser là, ces équipes comme Hurricanes, Flyers, Islanders, à les faire à la place de Columbus? Je vois mal les Blue Jackets être acheteurs, sont jeunes, ça va bien, il y a eu une belle progression, ils attendaient pas là. Je les vois mal payer pour essayer de se battre à l'en série quand que Non, faut que tu fasses confiance au processus, ça va bien, on est dans la bonne direction. Essayez pas de scraper des choix de repêchage pour mettre une balle de plus pour essayer de faire les séries.
Ah,
Donc, non,
je suis d'accord avec toi. Je pense que ça résume pas mal la division métropolitaine. Du côté de l'Atlantique, je sais pas pour toi, mais moi je pense que ça va rester assez intact. Là. Boston, Tampa Bay, Toronto, ça bougera pas. Écoute, même si je suis partisan des Canadiens de Montréal, écoute, je rêve pas en couleur, là. Je suis quand même assez réaliste là, que les Canadiens n'ont pas l'alignement pour relancer ces trois équipes-là. Toronto, c'est un peu la même chose que les Hurricanes, peut-être un petit peu moins jeunes, par exemple. Là, ils ont des joueurs quand même d'expérience. Là, Barry, Frederick Anderson, qui a quand même eu du succès avec les Ducks d'Anaheim, notamment, là, avant de s'amener à Toronto. Et du côté de Tampa Bay, Boston, écoute, ces équipes sont beaucoup, beaucoup trop talentueuses pour échapper à ça. Sinon, dans l'Ouest, une division, je pense, à mon avis, qui est la plus faible. Je sais qu'on s'en est parlé brièvement hors d'onde, Olivier, dans la Pacifique, là, quand on regarde les Canucks de Vancouver, qui sont surprenants cette année avec 65 points, ils sont premiers dans leur division. Quand on compare avec d'autres divisions, là, qui ont tout au moins dans les 70 points en montant, là, même 80 points pour Boston. C'est une division qui est faible. On attendait les Golden Knights de Vegas à être premiers dans cette division-là. Finalement, les Golden Knights sont juste troisièmes. Je pense pas que les Golden Knights vont perdre leur spot de faire les séries, par exemple. Mais il y a quand même des belles équipes qui sont surprenantes, notamment Winnipeg, là, à défaut qu'on sait au début de la saison, là, leur défenseur était écoute, catastrophique là, avec le retrait de Byfuglien pour la saison, la perte de Tyler Myers et Ben Sherratt aussi à Montréal et j'en passe.
C'est vrai.
Notamment, ils ont été obligés de faire jouer des recrues là, comme Ville-Nolan, par exemple. Donc, moi, Vancouver, écoute, même si ça va bien pour l'instant, je pense pas que c'est une place assurée. Les Oilers d'Edmonton, tout passe par Connor McDavid et Leon Draisaitl. Quand l'un marche pas, l'autre marche. Fait que présentement, ça marche bien. Si les gardiens sont capables de faire le travail, qui pour l'instant, sont capables de le faire, ça marche bien. Les Vegas, comme j'ai dit, oui, ça va bien dans eux. À ton avis, Olivier?
Ben moi, d'un, quand je regarde, j'ai un petit peu de misère à lire que les Canucks sont premiers. C'est un club que personnellement, je voyais pas là. Ils ont 65 points. Puis même à ça, leur place en série, je suis bien d'accord avec toi, sont loin, mais loin d'être assurés. Parce qu'ils sont à 4 points d'être exclus. Eux, je m'attends qu'ils descendent convenablement. Puis aussi, s'il y a une statistique un peu qui peut montrer un petit peu qu'ils sont sur la pente descendante depuis le match des étoiles, c'est l'équipe qui accorde le plus de lancers dans la Ligue nationale. C'est sûr que la défensive peut-être un petit peu à bout de souffle. Je suis bien d'accord avec toi. Moi aussi, c'est Vegas que je voyais en avant. C'est l'équipe qui a joué le plus de matchs avec 57. Avec un point derrière Vancouver, mais je crois que c'est eux qui s'en vont là. Ils jouent du bon hockey depuis que Peter DeBoer a pris.
Oui,
Puis
effectivement.
quand on regarde les statistiques avancées, c'est une des équipes qui sont vraiment bien placées à ce niveau-là. Il leur manque juste un petit peu pas d'opportunité, mais d'être opportuniste un petit peu. Ça va leur donner un petit coup de main. Les Oilers.
C'est pas l'équipe que t'affectionnes beaucoup, hein.
Non, vraiment pas. J'aime pas ça. C'est une équipe de ben, tu l'as dit, McDavid, Draisaitl. J'ai de la misère avec ça. Tu sais, leur meilleur défenseur, c'est Darryl Nurse. Il est bon défensivement, j'y enlève rien.
J'aurais plus été avec Clefbaum, par exemple, hein?
Je suis pas un fan de Clefbaum. Si tu me dis que Clefbaum est le meilleur défenseur des Oilers, ça me confirme l'argument de je suis pas un fan. Mais
Ben,
ils
c'est parce
sont.
que nouveau potentiel, je suis d'accord avec toi que Darryl Nurse, c'est lui qui a le plus de potentiel à la ligne bleue présentement d'alignement des Oilers d'Edmonton. Mais actuellement, je pense que leur meilleur défenseur, c'est Kevin.
On pourra en discuter longtemps, parce que, tu sais, Darryl Nurse, tu sais, défensivement, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est mine, c'est dur de jouer contre. Il a pas peur de jouer, de jeter mitaine. Il va à guerre, j'ai rien contre ça.
Ouais,
Comment?
parce qu'on va revenir au match des Flames Calgary
Oui,
avec
oui.
les Hallers, là, on a fait un beau combat.
Fait que, tu sais, sauf que moi, personnellement, tu sais, j'ai de la misère avec, tu sais, que ce soit le premier ou le deuxième défenseur du club, j'ai de la misère avec un Darnell Nurse qui a de la misère à contrôler la rondelle. Moi, j'ai de quoi qui j'ai un petit peu de misère avec ça. Pour la suite, ça va être difficile. Winnipeg, ils ont un petit peu de regain de vie dernièrement. J'ai encore de la misère à les acheter. Super belle formation en offensive. Wheeler et Rajunipa jouent du excellent hockey. Chez Fellé, je l'aime d'amour. Nicolas Seller est revenu le joueur qui était supposé. Roslovich, il commence à produire. Connor, mais défensivement, c'est ça. C'est difficile. C'est difficile.
Qu'est-ce qui ne leur aide pas? Ces équipes sont en E2. Dallas, Colorado, Saint-Louis, je pense, c'est trois équipes qui vont demeurer en haut de cette équipe-là. Là.
Oui, absolument, absolument. Je vois pas comment que ces trois formations-là pourraient descendre. Moi, Dallas,
l'équipe la plus irrégulière dans les nationales. Là.
Absolument, absolument. Puis, encore, j'ai un petit peu de la misère à les acheter parce que Jamie Benn, je le considère plus comme un joueur élite dans la Ligue nationale. Il a perdu du lustre. Il a eu une saison de 100 points, puis depuis ce temps-là, c'est difficile.
Ben, il faut maintenant considérer que les Stars de Dallas ne gagnent pas par Jamie Benn. Je pense que c'est l'atout majeur que qu'est-ce que la plupart des gens pensent pas, c'est Ben Bishop. Ben Bishop, c'est un gardien de but qui est phénoménal. On en parle peut-être pas assez. C'est un gardien qui joue quand même au Texas. Ça, c'est pas un marché qui est super reluisant. Mais quand on regarde l'esthétique de Ben Bishop, là, c'est un gardien qui a un pourcentage d'arrêt de 924. On le compare à l'an passé, 934. C'est des statistiques qui sont quand même très bonnes là, pour la nationale, pour un gardien numéro 1. C'est un gardien qui est quand même très bien utilisé. On ne donne pas trop de marches quand même. Là. Il fait des saisons d'environ 45 à 50 matchs par saison. Donc, il est quand même frais et dispo quand on arrive le temps des séries. Comme on a vu l'an passé, justement, les Stars de Dallas ont fait quand même un bon bout chemin. Offensivement, je pense que la pierre angulaire n'est plus Jamie Benn, mais plutôt Tyler Seguin, qui est quand même bien aidé là, par les vétérans qui l'entourent, Radulov, Benn. Perry Pawlowski, ce n'est pas les mêmes joueurs qu'il y a 5 ans, mais c'est quand même des bons vétérans qui vont être capables d'apporter du bon soutien dans une course aux séries et encore plus lors des séries éliminatoires.
Ben Bishop, c'est un super bon gardien, absolument. Le problème qui a été tout le long de sa carrière, c'est les blessures. Cette année, ça va bien. Est-ce que c'est Assoir qui va se blesser pour, pour plusieurs semaines? On le sait pas. Mais oui, pour le reste, avec Tyler Seguin, je suis vraiment d'accord avec toi. Klingberg, il joue du gros hockey. Puis moi, je reste encore convaincu qu'on parle pas assez de S. Cannon.
Ce
gars-là, quand il contrôle la rondelle, c'est un jeune défenseur. Il est juste à sa deuxième saison dans la Ligue nationale. Il est vraiment dominant. Il serait le pilier en attaque si ce n'était pas de Klingberg. Je crois qu'il va avoir une super de belle carrière dans la Ligue nationale. Puis, c'est un des beaux jeunes que je constate qu'on ne parle pas assez, qu'il a vraiment un super bon talent. Puis, tu sais, quand on continue à regarder les formations qui sont exclues des séries, on regarde les Coyotes qui, pourtant, il y a une couple de semaines, étaient favoris. Ils ont fait l'échange de Taylor Hall. On croyait que ça allait leur souffler dans le dos. Puis, finalement, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Là.
Ben, c'est une séquence de 10 défaites de l'or de leurs 12 derniers matchs.
C'est catastrophique.
Ça fait très mal, ça.
C'est sûr que pour leur donner, par exemple, Darcy Kuemper et Antti Raanta ont été blessés à leur tour, mais quand même, 10 défaites en 12 matchs, là, c'est beaucoup. Clayton Keller, il faut que j'aille voir sur le line-up pour être sûr qu'il joue parce qu'il ne produit pas, mais pas du tout. Donc
quand on s'en parlait, on savait que quand il avait été repêché, Clayton Keller, à mon avis, était un des plus grands vols du repêchage. Là. Il avait un très beau potentiel. C'est pas le plus gros des joueurs, mais c'est un joueur qui voit très bien le jeu. Il est intelligent, mais pour une raison que j'ignore, là, d'année en année, il produit de moins en moins. Il y a quelque chose qui se passe là, au niveau de Clayton Keller.
Mais, ça peut peut-être être une tangente qu'on peut prendre avec les Coyotes, parce que oui, Keller, moi je considère c'est un diamant brut. Il a tout pour réussir puis être vraiment pour être offensivement dominant. Mais tu sais, on peut regarder avec Domi aussi. Domi, à sa première saison, a vraiment été dominant avec les Coyotes. Les deux saisons suivantes, c'est un gros zéro, là. Il a pas été capable de suivre la cadence. Puis la première année qu'il arrive à Montréal, il a réussi d'être dominant
72
aussi.
Points, ouais.
T'sais, c'est vraiment très, très bien. Cette année, c'est un petit peu plus difficile pour Domi. Mais t'sais, ça reste que les Coyotes sont pas capables de surfer.
Ça reste
avec les jeunes. Là.
Exactement. C'est sûr que ça reste des spéculations. Là. J'ai pas de potin là-dessus. Là, mais les joueurs n'ont pas l'air intéressés à jouer. Premièrement, d'année en année, ils savent toujours pas s'ils vont à leur arena, si leur ville veut vraiment d'eux. Ça n'a pas l'air vraiment intéressant de les jouer en Arizona. Sinon, si on peut changer un peu d'équipe, oui, l'Arizona, c'est une équipe qui est décevante. Par chance, ils ont quand même un bon début de saison. Donc, ils sont quand même juste à 4 points de la première place de leur division. Fait que rien n'est encore impossible pour le moment. Moi, une équipe que je vois qui sont pas encore dans le tableau des séries et qui, à mon avis, pourrait quand même s'y intégrer très bien, c'est les Prédateurs de Nashville. C'est une équipe qui est très bien nantie défensivement. On sait qu'il y a eu un changement d'entraîneur cette année parce que Peter Laviolette s'est commencé à moins bien aller. Mais au niveau des défenseurs, on va juste regarder Roman Josi qui est incroyable. Ryan Ellis, Mathias Ekholm, l'arrivée de Matt Duchene qui est à mon avis un peu décevant avec ses 35 points en 51 matchs. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Olivier. Pekka Rinne, je pense que c'est plus le gardien.
Donnez le net à Saros. Arrêtez de vous ostiner. Donnez le net à Saros. Il est prêt. Il est bon. Pekka Rinne, il peut jouer un match exceptionnel. Puis les trois d'après, il a de la misère à avoir un ballon de plage. Ça n'a jamais été mon favori. Mais là, s'il vous plaît, donnez-les à Saros. Il mérite. Puis vous n'êtes pas dans une position pour faire les séries éliminatoires. Puis, tu sais, je pense que qu'est-ce que aussi qui a fait mal à cette formation-là, c'est la journée du jour de l'an, le match extérieur où Ryan Ellis s'est fait frapper par Corey Perry. Je pense qu'il jouait du gros, gros, gros hockey. Puis sa commotion cérébrale, je pense qu'elle a fait mal à l'équipe. Puis j'ai de la misère encore. Je regarde les Prédateurs, puis on se dit, ah, ben, ils devraient être là. Ils devraient se battre pour la Coupe Stanley. Puis encore là, non, vraiment pas. Peter Laviolette, clairement, il avait perdu son vestiaire. Mais Matt Duchene, il fait pas grand-chose. Ryan Johansson, OK, il est
pas
le joueur qu'on
pensait. Lui, il a une bonne saison, puis ça a fini là.
Mais moi, à Columbus, je l'aimais. Tu sais, c'est un gros bonhomme. Il jouait dur, c'était... Il a lancé vraiment là, de dominant. Je l'appréciais, mais depuis qu'il est à Nashville, on dirait, je sais pas, il y a quoi à Nashville? Ils ont eu durant des années la plus belle défensive pour relancer, qui devrait être en théorie être capable de produire de l'attaque par les relances incroyables. Tu sais, avec Subban, Ellis aussi, c'est incroyable. Et non, absolument pas. Les attaquants réussissaient pas à produire. Michael Granlund a eu des super de bonnes saisons avec le Wild du Minnesota. Il arrive à Nashville, tabarnouche, il produit pas. Ça en est quasiment triste. L'année passée, c'était disgracieux.
Il y a quelque chose qui se passe offensivement.
Oui, il y a de quoi avec cette formation-là. Je ne sais pas si c'était le système de Peter Laviolette, mais les attaquants étaient complètement éteints.
Juste Johansson, c'était un marqueur de 33 buts à Columbus avant son départ. Je regarde ses statistiques. Il n'a pas fait sa meilleure saison au niveau des buts, c'est 15 buts.
Ça n'a aucun sens, ça. C'est moins de la moitié. Là.
C'est incroyable.
Il n'a pas perdu sa touche de scoreur du jour au lendemain. T'sais, je pense que qu'est-ce que ça fait du bien aussi, c'est depuis que Hines est là, ben Forsberg, ça l'a relancé. Granlund, ça l'a relancé. Fait que je pense que ce move-là de Laviolette, c'était un move qui était nécessaire, mais il se passe quelque chose là-bas.
Mais c'est ça, il manque de scoreurs. Si on en regarde, là, il n'y a pas un seul joueur qui a atteint la plateau des 20 buts cette année dans les Prédateurs.
Mais c'est-tu un manque de scoreurs ou un problème de système? Parce que moi, je suis convaincu que tu peux amener Forsberg dans plusieurs autres formations. Il va marquer 20 buts sans hésiter. Granlund aussi, je pense qu'il reste bon hockey.
Moi, je pense que au niveau de la philosophie, là, ça date depuis l'année qu'ils ont été introduits dans la Ligue nationale. Ça a tout le temps été connu. Nashville passait par leur défensive, par leur défenseur. Il y a eu l'époque de Shea Weber, Ryan Suter. Après ça, on a changé à Juicy. On a eu Seth Jones un petit peu, Dan Amuse. Tout le temps, des gros défenseurs, des très bons défenseurs. Là. C'est plus Ryan Ellis, Mathieu Seacombe qui accompagne Ron Juicy. Mais ça a tout le temps été une équipe qui compte énormément sur leurs défenseurs, leur défensive. Et je pense que c'est vraiment au niveau de la philosophie. Il y a quelque chose qui... T'sais, oui, il y a eu l'année où il y avait sorti les Blackhawks de Chicago. C'est à ce moment-là que Chicago ont fait leur ménage du printemps un peu, malgré leurs trois Coupes Stanley qui avaient été gagnées récemment de leur dynastie. Mais outre ça, Nashville, c'est une équipe qui n'a pas vraiment donné les résultats escomptés depuis ce temps-là. Et là, on a, comme tu disais, c'est un alignement qui pourrait aspirer à la Coupe Stanley, logiquement. Là. On a Matt Duchesne, Philippe Forsberg, Ryan Johansson, Roman Jussi, Ryan Ellis. Écoute, c'est un alignement qui... un aliment de qualité, mais les résultats ne sont pas là, malheureusement.
Ben oui, absolument. T'sais, on se parlait qu'on était déçu de Vegas, qui était troisième dans la division, mais quand on parle de Nashville, c'est qu'ils sont exclus des séries. On s'entend qu'ils sont juste à trois points, des séries, puis ils ont deux matchs en main. Donc, ils ont la possibilité d'être là, ils ont leur destin entre les mains.
Mais à mon avis, ils vont quand même les faire, même s'ils sont décevants. C'est juste qu'ils ne devraient pas se battre pour une place à série. Ils devraient se battre pour une première position. C'est ça qui est décevant de leur côté.
Sauf qu'il faut faire attention parce qu'actuellement, ils ne jouent pas du gros hockey. Ce n'est pas une formation qui au-delà des résultats, qui joue une bonne game actuellement. Là.
J'ignore Ryan Ellis combien de temps qu'il va être sur la touche s'il va revenir d'ici la fin de la saison. Mais... Mm-hmm. C'est sûr que Nashville a subi son retour parce que c'est vraiment plus la même équipe, comme tu as dit, depuis qu'il est blessé.
Tu sais, peut-être la dernière formation qui a quand même des chances de participer aux séries que je vois, c'est les Blackhawks de Chicago qui sont présentement en égalité avec le Wild du Minnesota, mais je crois qu'avec l'échange de Zucker, l'écart va vraiment. Se creuser. Tu sais, les Hawks, ils ont un match en main sur Calgary et deux matchs en main sur Winnipeg, puis ils sont 4 points à l'arrière.
Non, c'est pas impossible.
C'est encore accessible. Tu sais, Jonathan Toews joue du bon hockey dernièrement. Patrick Kane reste Patrick Kane. Ils se sont saisis.
C'est un beau mélange, je pense, de vétérans et de jeunes joueurs. Là. Notamment, tu as nommé les bons vétérans, Patrick Kane, Jonathan Toews. On a aussi celui qui a fait la bataille avec Jonathan Toews, que j'ai oublié le nom, là, Duncan Keith. Puis avec ça, on amène des bons joueurs. Là. On sait que c'est peut-être pas ton préféré, là, moi non plus. On a Dylan Strome.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut pas enlever? C'est un joueur qui a un lancer qui est très intéressant. Mm-hmm. On a Alex DeBrincat, un marqueur de 30 buts réguliers.
Ouais. Il y a une saison difficile un petit peu. DeBrincat, il joue
ça à trop mal, je trouve.
C'est ce que j'ai un petit peu bizarre avec les lignes de Jeremy Colliton, c'est que à chaque fois que DeBrincat et Patrick Kane jouent ensemble, ils marquent des buts. C'est aussi sûr que le ciel est bleu, ils marquent des buts, puis souvent, ils séparent, puis ils essayent d'égaler ces lignes, puis ben oui, c'est DeBrincat qui est cop. Puis je pense que ça commence à jouer un petit peu sur sa confiance, parce que tu l'as dit, c'est un marqueur de buts. Il en a tout le temps marqué des buts. Dans le junior, il en a marqué en tabarnouche des buts.
Mm-hmm.
Mais là, ça ne rentre pas. Tout simplement. Fait que ça peut être un petit peu difficile. Moi, du côté des Blackhawks, ma crainte un petit peu, c'est vraiment au niveau de la défensive un petit peu que je crois que c'est pas une défensive vraiment qui peut être dominante. Puis Brent Seabrook s'est fait opérer la semaine dernière. Puis ça se peut qu'il manque le début de la saison prochaine. Il s'est fait opérer à l'épaule et à la hanche en même temps. Donc, il était magané un petit peu. Puis même s'il en a perdu les dernières années, ça reste un bon leader, un gars qui était respecté puis qui pouvait donner des grosses minutes.
Mais justement, tandis qu'on en parle de blessures, est-ce que tu penses que les Blackhawks de Chicago pourraient être acheteurs pour atteindre les séries cette année?
Et ça va être... C'est difficile à dire. Je crois que...
Parce que moi, je pense au niveau des défenseurs, il y a du travail à faire.
Ah, assurément, assurément. Puis j'y vois un petit peu dans la même position que les Penguins de Pittsburgh. Pittsburgh sont un petit peu mieux placés, mais ça reste que Jonathan Toews et Patrick Kane, qui sont dans la début trentaine, ils veulent pas, ils ne vont pas s'en aller vers une pente qui vont faire plus de points d'année en année puis jouer du meilleur hockey. Fait que le temps est un petit peu contre eux. S'ils veulent en profiter pendant qu'ils sont encore à leur prime,
c'est sûr, mais si on en revient au comparatif des Penguins, c'est sûr qu'eux autres, leur après-air, Kane, Tate, quand même un petit peu mieux assuré, là, quand même des jeunes joueurs.
Oui, assurément là-dessus, là, c'est absolument.
Qu'on a nommé les Dobrynkat, Strom, si on peut voir
éclore. Moi, j'adore Dak aussi. Kirby Dak, ouais. Il joue du gros hockey. Les points n'ont pas particulièrement venu encore.
Mais là, ça va bien dernièrement.
Et ça va super bien.
5 points, c'est 5 derniers matchs.
Ouais. Tu sais, c'est pas facile jouer un. Être un centre dans le national à son âge, mais il est vraiment bon. Puis, tu sais, que dire de Kubalik cette année? Wow!
Effectivement, c'est une belle trouvaille. C'est Chicago qui ont tout le temps eu ce talent-là d'aller chercher des bons joueurs. Écoute, si on revient à l'an passé, c'était Dylan Strome qui allait absolument nulle part avec les Coyotes. Il est arrivé avec les Blackhawks, quasi un point par match. Cette année, il y a eu les blessures là, qui l'ont ralenti un petit peu, mais quand même une saison qui est quand même respectable là, d'environ 30 points en 40 matchs.
Puis, quand tu parles de trouvailles là, des Blackhawks, on n'a pas besoin de creuser bien loin pour se souvenir d'Artemi Panarin qui, trouvé derrière une poubelle de Sibérie, a venu complètement revigorer cette équipe-là. Fait que, oui, les Hawks, ils ont toujours été capables de trouver des joueurs... à des endroits.
Ah, effectivement, ça, je suis d'accord. Malheureusement, ils l'ont perdu contre rien, là, mais...
C'est...
Le retour de Benson Zad. C'est triste.
C'est triste. Cette transaction-là est gênante, mais je pense que pour qu'il échange un gars de grind de 3 contre un gars qui a un potentiel de fou contre Panarin, je pense qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, absolument.
Il y avait beaucoup de rumeurs que Toews, Panarin, ça marchait plus ou moins.
Ouais. Mais tu sais, Sad est encore là. Il manque des buts. Il s'est relancé un petit peu. Ouais. Je ne suis pas en train de te défendre cette transaction-là, mais au moins, ça n'a pas viré entre un échange que ils ont été obligés de le libérer.
C'est sûr, mais ça reste que Panarin est quand même
dans
les joueurs très hauts de l'Union nationale présentement.
Absolument.
Mais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui fait le tour un peu des équipes repêchées qu'on voulait discuter cette semaine? On a fait aussi le tour brièvement des équipes qui pourraient être acheteurs et vendeurs. Ça conclut notre sixième épisode, Olivier. On va essayer de... Malheureusement, on a perdu un peu la régularité de nos émissions. On va essayer d'être plus assidus pour les prochaines émissions.
C'est de notre faute. On a fait des enfants. Ils perdent des enfants. Ça fait qu'ils sont malades, ces enfants-là.
Sinon, on vous invite là, à aller nous suivre sur notre page Facebook, L'Avantage numérique, à liker nos publications. Vous pouvez notamment aussi nous suivre sur notre page Twitter, L'Avantage numérique également. Alors, on a aussi nos plateformes populaires, Olivier, que je pense que tu devrais mentionner.
Stitcher, Spotify, Google Play, Apple Music, on est partout. N'oubliez pas de mettre un 5 étoiles et de partager si vous aimez ça. C'est toujours, évidemment, très grandement apprécié.
Et bonne semaine. Au revoir.
Bye-bye.